la faculté de pouvoir séparer entre eux, ne fût-ce que mentalement, des choses ou des événements importants, nous aident à donner une suite logique à leur déroulement, à ne pas prendre la vie trop au sérieux. Certains êtres sont plus joyeux que d'autres, sans raison apparente. Peut-être s'agit-il tout simplement d'une question d'optimisme et de pessimisme plus ou moins naturel. Être désagréable, tatillon, maniaque, rend désagréable au même titre un nombre de gens qui mènent à ce moment-là vers l'isolement et la solitude. Le sentiment de culpabilité constant fait également partie d'un complexe tout particulier. Nous ne pouvons rien nous pardonner et tout nous fortifie dans cette fausse opinion de nous-mêmes, car rien n'échappe à notre implacable. Nous guettons notre propre personnalité au point de nous empoisonner littéralement l'existence. L'être intérieur, le psychisme, en est affecté, car tout semble nous dominer par une supériorité qui n'existe qu'au niveau de notre imagination. Une variante de cette attitude pousse le sujet à adopter une humilité maladive dans son comportement vis-à-vis d'autrui. Il ne se repaisse littéralement que des accusations formulées sans arrêt contre la propre personnalité. L'individu se replie sur lui-même, comme s'il était traqué, et cela l'isole complètement de la réalité du monde extérieur. La timidité, elle aussi, peut-être lorsqu'elle est extrême, créer une faille chez l'être. Nous avons alors dans notre ombre quelque chose qui nous fait peur, car nous nous interdisons littéralement toute initiative, et cette timidité parfois exacerbée déforme l'importance des événements dont la vie est faite, et le peu d'importance que nous nous accordons nous pousse à rechercher le contact avec nos semblables pour assouvir une sorte de nécessité de communauté ou même de nécessité. D'autre part, cette timidité empêche le contact humain. Et la peur d'autrui augmente, et nous tournons alors dans un cercle vicieux qui nous éloigne de tout et de tous. L'isolement est là, il nous guette. Enfin, pour de multiples raisons, l'agressivité s'empare de l'individu qui désire ainsi cacher ce qu'il croit être sa propre médiocrité. Le timide devient souvent agressif en vertu du principe qu'il se croit injustement incompris et rejeté par la société. Voltaire disait: il ne faut se moquer ni de ceux qui font du bon, ni de ceux qui font du mauvais, mais de ceux qui, étant médiocres, le sont devenus encore davantage et font les importants. Montaigne affirmait, quant à lui, que se laisser atteindre par les prétendues médiocrités du timide est souvent le signe qu'on est soi-même un demi-médiocre. Jésus aussi nous a très souvent démontré qu'en réalité, les médiocres veulent paraître sans être. Les pharisiens de son temps exiger qu'on se lave les mains avant de manger, sans pour autant s'inquiéter d'avoir le cœur rempli de mauvaises pensées, de meurtres, d'adultères, d'impudicité, de vol, de faux témoignages et de calomnies. Combien de fois n'a-t-il pas affirmé que la lumière qui doit briller en nous ne peut être cachée, qu'elle ne sert à rien de couvrir une pièce de tissu neuf sur un vieux vêtement, ni de mettre du vin qui fermente encore dans de vieilles outres? La timidité et l'agressivité qui se développent habituellement vont de pair. Engendre fréquemment un comportement inamical également. Cain, après avoir tué son frère, répond brutalement à Dieu qui lui demande où se trouve Abel. Suis-je le gardien de mon frère? Jacques dit également dans son épître que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Le peuple d'Israël, après avoir été sauvé de l'esclavage égyptien, et s'être engagé dans le désert du Sinaï, accuse très vite Moïse, artisan de son salut. Que n'avons-nous à nouveau les marmites de viande que nous avions là-bas? On le voit, cette disposition, à l'instar de la plupart de celles déjà citées, mène l'homme à s'isoler ou à s'installer dans une forte forme ou l'autre de dépression nerveuse, corollaire tout naturel de la solitude. Les symptômes de la dépression relèvent du domaine de l'émotivité qui se traduit en règle générale par une indifférence à l'affection, une tristesse profonde et ces crises de larmes imprévisibles, une irritabilité et une sensibilité extrême, des angoisses, craintes, accablements et autres anxiétés irraisonnées. Lorsqu'on examine même en surface les causes de la dépression nerveuse d'un sujet, on s'aperçoit très vite que les raisons présent en sont relativement bénignes, comparés aux effets. Parmi le nombre, citons la dépression, la déception, la maladie, le manque de confiance en soi, l'épuisement, des réserves nerveuses, le surmenage intellectuel, le sentiment de rejet ou d'abandon et l'absence de joie morale ou mentale. Par contre, ces effets atteignent l'être au plus profond de son comportement sensoriel. Il n'arrive plus à se comparer aux autres d'une manière saine et logique. Il se trouve dans l'incapacité de se sortir d'une situation à peine anormale. Il a l'impression d'être pris au piège de la vie et tout prend des allures véritablement catastrophiques. Il se recroqueville sur lui-même et son indifférence au monde extérieur n'a d'égal que sa grande torpeur morale, physique et spirituelle. Une remarque s'impose. Les enseignements de la Bible sont presque une des seules aides négligées par ceux qui veulent aider leurs semblables à sortir de la dépression. Le docteur Albert Kahn remarque « Le traitement de la dépression nerveuse présente un dilemme chez l'homme moderne. Il l'isole encore davantage. En négligeant l'aspect spirituel de sa nature, il se prive d'une extraordinaire puissance. » dont il pourrait disposer contre la peur, la colère et autres désastres émotionnels préjudiciables. Pascal énonçait également une idée similaire lorsqu'il écrivait « Le gouffre énorme que constitue la dépression nerveuse ne peut être comblé que par un élément infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le vide de Dieu ne donne aucun répit à l'être, le soumet à une recherche constante de son identité et une soif intense de paix. Il ne peut obtenir de satisfaction durable en ne considérant que la pensée, le cœur et le corps. Pour celui qui croit, Dieu a pourvu un remède, Jésus-Christ. Celui qui affirme « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette vie est faite de paix, de douceur, de don de soi, non pas de lutte continuelle et d'introspection douloureusement ressentie à chaque instant. Jésus ne fait cependant pas d'emblée sa demeure dans le cœur de ceux qui viennent au monde, et cela peut paraître étonnant. Si tel n'était pas le cas, les petits-enfants mis à part, une véritable naissance spirituelle serait inutile. Le Christ est extérieur à la nature spirituelle de l'être humain. En Apocalypse, chapitre 3, verset 20, le Fils de Dieu dit bien, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Et en Matthieu 11, 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus ne s'impose jamais et répond aussitôt à l'invitation de tous ceux qui mesurent enfin le vide existant en eux. Dans les sermons sur la montagne, Jésus présente les deux chemins qui s'offrent à tout homme. L'un, large, qui mène à la perdition, l'autre, étroit, conduit à la vie. L'être humain n'a pas été créé pour vivre en solitaire, mais bien parmi ses semblables. C'est là qu'il partage pleinement les bienfaits apportés par la volonté divine. Il s'autodétruit en rejetant l'existence spirituelle qui lui est offerte, et sa solitude provient toujours des décisions prises unilatéralement par son moi et non par son Créateur. Jésus résume très bien cette vérité essentielle lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce qui sépare l'homme de Dieu et fait de lui un pauvre solitaire, c'est sa propre volonté. Il croit posséder la science infuse des choses par sa propre volonté, par qu'il peut, croit-il, se diriger lui-même en tout, par ses propres erreurs, car il croit pouvoir arriver à incarner le bon, le bien, la rectitude absolue. Le cratère de cette solitude, qui est toujours insupportable, commence à se creuser là. Le lien, le cordon ombilical entre Dieu et l'homme ne peut être rétabli qu'à partir de la réalisation d'une vérité première qui est notamment proclamée par le livre de l'Ecclésiaste. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Il peut avoir le courage et la force de pouvoir se crier sans arrière-pensée, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors peut commencer une ère nouvelle, une existence toute différente.